Jésus. Est-ce que ça va? On m'entend bien? Ok. Alléluia. Ok. On va juste prier encore. Papa, merci pour ta présence aujourd'hui. C'est juste incroyable de venir, de savoir que tu es toujours là. Tu viens toucher nos cœurs. Tu viens toucher nos vies. Tu viens nous bénir. Et Papa, comme tu nous as rencontrés à travers de ces chants qui sont montés, de ce parfum qui est monté, je prie encore de venir nous rencontrer maintenant. Qu'au travers de ces paroles, ce n'est pas seulement des paroles, mais que ce soit une rencontre avec toi. Qu'il y ait quelque chose de toi qui soit communiqué, qui soit déversé. Papa, viens nous remplir, papa. On a besoin de toi. Alléluia. Amen. Ok. Let's do it. Donc, ça fait un petit moment que j'avais envie de prêcher sur une parabole qui est assez connue en fait. C'est celle des 10 vierges que l'on connaît. Alors on va déjà la lire et puis après on verra. Donc c'est Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non. Il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Alors, comme toute parabole, elles paraissent toujours simples, et parfois on les rend simplistes. Mais une parabole est tout sauf ça. Et moi, ça fait partie de ces paraboles qui m'ont pas mal embêté pendant quelques années. Je pense peut-être que j'ai enfin fait le tour, peut-être. Parce qu'au départ, il dit « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges » et puis il y a toute l'histoire qui déroule. Mais au bout du compte, au bout des 13 versets, est-ce qu'on a appris grand-chose sur le royaume des cieux ? Ben, je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je me dis, mais j'aimerais aller plus en profondeur dans cette histoire et aller au-delà de ce qu'on entend. Et je rappelle que Jésus, à un moment donné, les disciples viennent, c'était dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 13, et mais pourquoi tu leur parles en parabole ? Et la réponse de Jésus est, je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en l'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. En fait, une parabole est comme un trésor caché qu'il faut déverrouiller. Et elles apparaissent souvent très simples au premier abord, et après c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que vous avez déjà entendu pas mal de choses sur celle-là. Non ? Si ? Pas mal. Hein ? Vous pouvez me donner deux, trois petits trucs de ce que vous avez entendu ? Courage, il n'y a pas d'erreur. C'est pas vous, vous avez entendu des choses. D'accord ? Si on entend que personne n'a rien entendu, donc c'est bien, je suis sur la terre absolument vierge. Comme dans l'histoire de la parabole. Ok. La plupart des choses que j'entends en général, ça nous parle d'une longue durée d'années, et puis des choses qui vont se passer, qu'il faut veiller. Mais concrètement, ma première question était, comment les gens qui étaient sur place l'ont perçu? Comment est-ce qu'ils l'ont comprise? Qu'est-ce qu'ils ont pu en retirer? Et juste cette parabole se situe au milieu de deux autres. La première, c'est celle. Alors, il y a des jugements de nations dans tous les passages de Matthieu 24 et dans Matthieu 25. Et on a aussi deux autres paraboles qui nous parlent aussi de l'un jugement. Celle du serviteur, ceux qui sont bons, ils reçoivent des récompenses. Et pas 25, Matthieu 24. Et celles qui ont le mauvais serviteur, il va recevoir une très mauvaise récompense. Il se fait sévèrement punir. Et puis, il y a la parabole des talents. Bon comportement, récompense. Passivité, mon engagement. Et il se fait exclure. Et puis au milieu, il y a cette parabole-là, entre ces trois-là. Et donc, quand on commence cette histoire, on parle de 10 vierges. Et moi, je trouve que c'est déjà pas mal. On peut considérer qu'aucune de celles qui sont là, en tout cas, ne sont vraiment dans le péché. A priori, elles sont exemptes de souillure, elles se sont préservées pour un événement, par exemple un mariage. Le fait déjà de dire quelqu'un s'est gardé. Ça montre déjà une sacrée persévérance. Bon, pour aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un ou à des jeunes, certains sont restés vierges ou pas, ça dénote un désir d'aller quelque part. Ça dénote une volonté, une assurance, une fermeté. On ne se garde pas pour quelque chose juste comme ça. Et je trouve déjà incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'au départ, les 10 semblent, de ce côté-là, pas mal. Elles se gardent pour un événement. Un mariage pour une personne, pour l'époux, voire pour quelque chose de plus grand, un idéal, le royaume. Et c'est déjà pas mal. Alors peut-être que pour certaines, c'était une propre justice, j'en sais rien, mais elles ont attendu. Et alors qu'elles ont attendu, il arrive le moment où il faut qu'elles se préparent. Et là, elles ont leur lampe avec elles. Leur torche. Il y en a qui parlent de torche, c'est intéressant parce que des lampes ou des torches. Bonjour, Shafika. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Shafika! Joyeux anniversaire! Donc, on était. Alors, certains disent, mais en fait, les vierges n'avaient pas d'huile, donc c'est pas le Saint-Esprit, donc pas mal de commentaires. Ben, si. Elles ont leur lampe avec elles. Elles ont les torches, et cette lampe va brûler un certain temps. Donc, elles ont quelque chose. Alors, du coup, je suis quand même. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Parce que ceux qui l'ont compris à l'époque devaient la situer dans leur culture. Et donc j'ai essayé de remonter dans pas mal de recherches au niveau hébraïque ou ailleurs. Et en fait, voilà, j'ai juste repris un passage. Donc c'était à un moment donné, il y a l'époux qui va arriver, et donc la lampe devait rester allumée toute la nuit. Et celle de ses compagnes et deux demoiselles d'honneur aussi, car l'époux vient enlever l'épouse, la fiancée. La jeune fille ne sait pas quand son premier va venir la chercher, quand son premier va venir, excepté le fait que ça dure dans un délai, j'étais un peu surpris par le chiffre, d'une année. C'est long, hein? T'es fiancée, puis tu sais pas, il faut attendre pendant un an. Bon, du coup, ça m'a compris pourquoi Jésus parlait d'attente. Parce que pour moi, il dit, mais une année, sympa pour les nanas. Je ne sais pas si vous voulez attendre autant longtemps que ça, mais bon, voilà. Et puis, voilà, ça se passe. Et puis, dans l'attente de la nuit de noces, elle se tient prête et elle attend le jour de l'événement. À ce moment-là, l'époux peut venir. À un moment donné, elle va être prévenue par plusieurs choses. D'abord, le son de la trompette, celui du chauffard, et après, le cri, voici l'époux. Donc, avant que dans notre histoire, il y a eu voici l'époux, il y a eu les sons auparavant. Il y a eu une préparation. Et les amis de l'époux, les plus proches, vont le précéder et ils vont escorter ces garçons d'honneur. Donc, on retrouve les histoires des trucs entre filles et trucs entre garçons. C'est intéressant. Les amis de l'époux sont munis de chauffards, de flambeaux. Ils annoncent sa prochaine arrivée, donc ils précèdent. La jeune fille a juste le temps de finir ses préparatifs, de dire au revoir à ses parents, qui se rassemblent autour de la maison. Et voici le cri, ça retentit, le son de la trompette arrive. Les amoureux vont installer là une sorte de chaise et ils vont l'emmener. Bon, je fais court parce qu'il y a plus de choses, mais j'ai juste pris cette partie-là. L'époux arrive et reçoit sa fiancée. Il y a les bénédictions, il y a un cortège qui se forme et tout le monde se met en route. Et l'époux va avec ses amis jusqu'à un endroit où ils font la fête, avec les dames de compagnie, amis et demoiselles d'honneur. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas juste un truc, tu as le monsieur qui vient tout seul, l'époux, et puis ça se fait tout seul dans un petit coin. C'est vraiment une célébration avec plein de gens. Et il faut, parce que ça se passe en pleine nuit, il faut de la lumière. Du coup, ça m'a aidé à comprendre certaines choses. Toujours est-il que, a priori, je suppose que le premier avertissement est arrivé, parce qu'elles se sont préparées pour l'époux. Et on... là, manque de bol, il se passe un truc un peu bizarre. Finalement, après la première annonce autour du chauffeur, l'époux n'est toujours pas là. Et puis notre jeune, brave jeune femme s'endorme. Personnellement, je suis un peu surpris que le soir, le ténos, tu arrives à t'endormir. Ou tu es vraiment très, très, très fatigué. Ou il y a quelque chose d'autre. Peut-être que dans cette histoire-là, peut-être qu'il y a un esprit d'assoupissement qui est arrivé dessus. Parce que une s'endorme, je veux bien, que deux s'endorment, d'accord, mais toutes vont s'endormir. C'est comme s'il n'y avait pas la capacité d'aller au bout. Et ça me rappelle cette histoire dans Jésus au mont des Oliviers. Vous savez, il est avec ses disciples. Et même les disciples, quand Jésus revient chez lui, mais on ne comprend pas. Ils sont mal. L'époux, l'ami a dit quelque chose et ils ne sont pas capables de garder leurs yeux ouverts. Il y a une fatigue qui leur est tombée dessus qui est juste incroyable. Et je ne pense pas que ce soit une fatigue naturelle. Donc, voilà. Et une certaine question qui peut se poser, vu que dans notre histoire, elles vont se réveiller, elles vont commencer à se repréparer. Et puis on se rend compte d'un truc, c'est que certaines ont de l'huile et pas d'autres. La question c'est, quelle quantité d'huile aura-t-il fallu pour aller au bout? Est-ce que c'est des hectolitres? On ne pense pas. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui devait tenir la nuit. Vu qu'au départ, c'était prévu pour juste une nuit. Hein. Donc on considère que ces jeunes femmes doivent passer la nuit avec leur lampe. Et là, se commence à se poser la première question, pourquoi à ce moment-là, les folles, entre guillemets, n'ont pas préparé cette fiole? Parce qu'elles savaient, elles connaissaient la coutume. Tu savais que ça allait durer une certaine partie de la nuit et qu'après, il y allait y avoir un cortège. Donc ce n'est pas juste le moment où l'époux arrive. Il va falloir aller jusqu'à l'endroit où il y a les noces et dans tout ce temps-là, tu as besoin de ton huile. Pourquoi elles n'ont pas préparé leur huile? Et là, il y a une forme d'imprévoyance absolument incroyable. Parce que finalement, la grande différence entre celles qu'on va appeler sages et folles, c'est juste ça. C'est tout. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que il y avait assez d'huile pour aller au bout de la nuit, de toute façon? Je ne peux pas le dire. Celles qui n'ont pas assez d'huile disent « ben, on n'en a pas à donner d'où ». Et les autres, elles répondent quoi? Il n'y en a pas assez. Mais elles sont au milieu de la nuit. Si le déplacement qui était à faire était assez court, elles ont pu partager. Alors soit elles avaient suffisamment pour elles pour aller au bout de la nuit, point, soit elles n'avaient plus grand-chose. Et quelque part, peut-être que simplement ça nous rappelle que nous sommes nous-mêmes faillibles. Quand on fait des choses, même si on met toute notre volonté, on peut parfois se planter et ne pas être suffisamment prévoyant. Et parfois nos stratégies ne suffisent pas. C'est comme s'il était impossible d'aller au bout. Et pour faire face à nos échecs, nos failles, il faut compter sur sa grâce, tout simplement. Alors les cinq vierges qui avaient bien des qualités, mais qui ont tout perdu pour une petite fiole, sont appelées stupides, insensées. Mais le même mot veut dire aussi impie, sans Dieu. Intéressant, sans Dieu. Pour ça. Les cinq vierges qui avaient bien des qualités, un petit vase d'huile, ont tout gagné et sont appelées sages, intelligentes. Parce que le mot sage, finalement, aujourd'hui, est tellement connoté qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais intelligentes, prudentes, elles sont conscientes de leur intérêt. Intéressant, je suis conscient de ce qui peut être bon pour moi. Et elles ont la faculté de percevoir et de juger. Donc du coup, la différence entre les cinq et cinq commence à se faire un peu plus grande. Donc les cinq qui sont insensés sont pratiquement condamnés dès le départ. Et puis finalement, c'est quoi cette huile? Et dans toutes mes recherches, alors encore une fois, j'ai dit le Saint-Esprit, je crois que c'est une partie de cela, mais tout long au départ en tout cas, vu qu'ils ont toute la lumière. Mais je suis retombé finalement après X recherches sur le même point qu'avec Fabienne Ponce, c'est l'intimité. Cette huile étant le signe de la relation avec l'époux. À ce moment-là, beaucoup de choses peuvent s'expliquer, effectivement. Les cinq folles, apparemment, elles étaient dans une position d'attente. Mais est-ce que cette attente était vraiment porteuse de fruits? Ou était juste dans une forme de passivité ou de... Ouais, bof, j'attends. Je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est vraiment dans une position active? Je n'ai pas l'impression. Vous savez que parfois, on a des relations avec des personnes et puis tout d'un coup, la relation, c'est comme si elle n'existait pas. Quand il vient un temps où on doit compter sur la relation, on se dit, mais oups, bof. Et une question qui se pose pour chacun de nous, qu'est-ce qui se passe s'il y a une attente? Quand les temps difficiles viennent, est-ce que notre lampe brille? Est-ce qu'on a notre petit vase avec nous? Est-ce qu'on a une vraie relation? Ou simplement une relation de façade? Et quand on parle de cette huile, c'est vraiment une... C'est une relation, donc c'est forcément une huile unique. La relation que je veux avoir avec Dieu n'est pas la même que celle que Jocelyne, ou que celle de Luc, ou de Manuela. Chacun a sa relation. Et ce petit vase se construit dans cette relation-là. Il est là. Et soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. D'où l'importance de privilégier ces temps de communion avec Dieu. Et ça explique aussi pourquoi les sages ne peuvent pas rien donner aux folles. Si c'est une relation, je ne peux pas l'impartir. Est-ce que je peux impartir ma relation que j'ai avec David à Guillaume que je viens d'apprendre à connaître? Est-ce que c'est possible? Ça ne marche pas. Il faut construire cette relation. Et dans cette relation-là, il faut du temps. C'est une vie de consécration, c'est une vie de foi, c'est une vie de service. Tout ça, ça se vit. Et ce n'est pas communicable. C'est intéressant quand on voit des personnes parfois qui veulent vivre par la foi. Ils ont fait un idéal. On a été de ces gens-là aussi. Et puis tout d'un coup, par la foi, c'est plus compliqué que ça y paraît. Parce que l'argent, ben, il n'arrive pas par la foi tous les deux secondes. Et d'un coup, tu vas être en train de ramer. Mais dans les livres, ça marche. Le gars à l'autre bout de l'Amérique ou en Afrique, ça marche. Il reçoit plein de dons. Et puis toi, tu te dis, ben, zut alors. Et en fait, tu vois qu'il va falloir construire cela. Tu peux le connaître intellectuellement, mais tu ne le vis pas. La même chose pour la relation avec Dieu. Et l'unique source pour ce petit vase, c'est la relation et c'est Dieu lui-même. Il n'y a rien d'autre. Alors la question c'est, Combien de temps? Combien de temps faut-il passer? Et déjà poser la question, c'est une erreur. Ça ne peut pas être une quantité. Parce que s'il me faut 5 ans pour avoir ce petit vase, qu'est-ce qui se passe jusqu'aux 5 premières années? Donc soit tu as cette relation dès le départ, et quelque part c'est un petit vase qu'il faut reconstruire quotidiennement. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je voulais faire plein de parallèles avec un autre texte, mais j'ai mis de côté. C'est l'histoire de, vous savez, quand Jésus dit à un moment donné, il parle aussi d'intimité. Et il parle de ces outres neuves dans lesquelles on peut mettre du vin nouveau. Parce que sinon, les anciennes, qu'est-ce qu'elles font? Elles explosent. Alors, admettons qu'on ait reçu du vin. Donc, notre outre est bien pleine. Elle a servi. Quel est le problème? Il va falloir qu'elle se renouvelle, notre outre. Pourquoi? Si elle n'est pas en permanence neuve, elle va se fissurer. Et on ne pourra pas accueillir le nouveau. Donc on a besoin de ce renouvellement permanent. Et c'est pareil pour cette huile. Ce n'est pas quelque chose que tu peux... C'est comme la manne. Tu ne peux pas acheter le gros stock et dire « je suis tranquille pour 10 années à venir ». Ça aide. C'est un bon truc. Mais c'est qu'est-ce que tu construis jour après jour? Qu'est-ce que tu construis? Et quand je parle de ces histoires, voyez-le à plusieurs niveaux, personnellement, mais aussi en tant qu'Église. Parce que je crois aussi qu'en tant qu'Église, on construit cette relation avec Dieu en tant que corps. Je pourrais reprendre tous les temps qui sont ici, dans la maison de prière, je pense que c'est le corps qui est en mouvement, qui construit cette relation, cette intimité. Pas seulement pour nous, mais pour la ville. Est-ce que notre lampe... Ou est-ce que notre outre est renouvelée? Donc, ce n'est pas une question de performance. C'est une question de relation. Je dirais que les pharisiens étaient très très forts pour la performance et pour la relation. Et une des questions qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si nos attentes ne sont pas atteintes? Ou s'il y a trop d'attentes? Si ça semble stérile? Au bout d'un moment. Bon, qu'on s'endorme, de toute façon, je ne m'inquiète pas. On a vu que tout s'endorme. Ouf, je peux me reposer. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est une question de performance? Au bout d'un moment, on va chercher un autre but. Et on va dévier du premier. Donc si dans ce que je vais exprimer, je ne bâtis pas ma relation, mais je performe, bah ça y est, j'atteins mon but à chaque fois que je performe. Et après, pfiou, ça se casse la figure. Et si ça met du temps, éventuellement sous les apparences, oui, mais bon, on n'avait pas très bien compris, ou bien on essaie de garder contenance. Mais encore une fois, c'est une question de relation. Juste montrer à quoi la performance peut nous amener à penser. Actuellement, les Jeux Olympiques, et je regarde pas mal, j'aime bien le sport, et je me réjouis de certaines victoires. Il y a quelque chose vraiment d'incroyable à retirer du sport. Hein. Honnêtement, à plein de niveaux, il y a des leçons incroyables. Et j'écoutais hier, à un moment donné, nos sportifs français étaient tellement contents de leur médaille, et je m'en réjouissais aussi. Et puis de rappeler combien elles avaient travaillé, qu'enfin elles avaient le bénéfice de tout ce travail, qu'enfin ça avait payé, que c'était génial, et que tout le monde était gentil, tout le monde il était beau, et tout est quanti. Ouais, ok. Si tu as fini 5e, tu n'as pas la médaille. Et alors? Ça veut dire que tu n'as pas travaillé avant? Comment est-ce qu'on parle des gens qui sont finis 5e, ou 6e, ou 7e, ou 10e? Je me rappelle l'autre jour, j'étais choqué, entre guillemets, parce qu'un des commentateurs français disait « Mais la France est très loin derrière au niveau des médailles. Elle était 7e, ou 8e, je ne sais plus. Macron, elle est 7, je crois. » Et alors, avec les 150 nations, tu es 7 et tu es loin derrière. Mais réjouis-toi de ce que tu as déjà. Quel est l'intérêt de se comparer aux autres? Il paraît qu'aux Jeux Olympiques, l'essentiel est de participer. Ben, en tout cas, je dis, mais les gens qui finissent deuxième, troisième, ou ceux qui n'ont aucune chance de gagner, vous savez, quand ils vont faire une course en natation, par exemple, il y en a qui finissent mais tellement loin. Regardez le 200 mètres avec Usain Bolt. On sait déjà qui a gagné. Donc tu bats. Il faut juste arriver déjà en finale. Et alors? Magnifique pour tous ceux qui ont fait ce travail, même si ça n'a pas donné les fruits escomptés. Il faut se réjouir du travail accompli, pas simplement la performance qu'on a réussi à atteindre. Donc, si la relation n'existe pas, elle n'existe pas. Et c'est pourquoi la réponse de quand les fameuses vierges un peu insensées viennent, quelle est la réponse du bien-aimé ? Je ne vous connais pas. Et c'est la réponse qu'on peut donner dans l'intimité. Ça exprime le mot connaître, bibliquement, on le rappelle, ça exprime une relation d'intimité. Et là, le bien-aimé dit, je suis désolé, cette relation n'existe pas. Vous avez cru l'avoir, c'était un beau rêve, mais niette. Je ferai juste une petite... Je ne parle pas ici de gens qui perdent leur salut. Hein. On parle du royaume de Dieu. Hein. Parce qu'on pourrait dire, mais ça veut dire que les gens sont... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité qui n'est pas ici de l'ordre du salut. Parce qu'on en parle... Le début de la parole, c'était le royaume des cieux est semblable. C'est pas le salut est semblable. Parce que sinon, ça veut dire que plein de gens vont perdre le salut et c'est pas ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je suis en train de parler du royaume des cieux dans lequel on devrait rentrer. Il y a une différence. Par exemple, si vous reprenez le texte de 2 Pierre 1, Pierre est en train de parler à plein de gens, il va dire des choses incroyables, que Dieu nous a tout donné pour ce qu'il faut, et il va dire d'ajouter à plein de choses, à l'amour, la foi, la persévérance, etc. Et à la fin, il dit, et ainsi, le royaume des cieux vous sera largement ouvert. C'est-à-dire que ce que tu as reçu au départ, tu l'as fait fructifier, et tu arrives à une autre dimension. Donc ici, on n'est pas en train de parler du... Je fais juste cette petite annotation parce que je ne voudrais pas qu'on parte d'ici en se disant « Mais, oula, je vais tout perdre ce que j'ai gagné. » Alors, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui va pousser à rechercher cette présence ? Ah, c'est dans une attente, je dirais, active. Parce qu'on peut tous attendre. Et puis, on peut être très passif. Alors oui, lui, bien sûr. On est tous d'accord que le bien-aimé reste au centre de notre regard. Il n'y a pas d'autre... La première des choses, et c'est notre focus. Mais quand je dis ça, ça reste très général, et puis ça y est, c'est fini. Alors je dirais, ce qui peut nous aider aussi, c'est les autres vierges. Je pense ces cinq qui étaient là, est-ce que c'était les amis de l'époux, j'en sais rien, mais... Elles se sont peut-être entraînées les unes les autres. Et tu as préparé ton vase. Quels amis tu as ? Comment tu construis tes relations pour aller à une autre relation ? Ou bien tes relations t'emmènent à oublier de bâtir ton vase ? Une promesse. Il y a des choses où des gens peuvent attendre pendant un temps incroyable et rester actifs. Dans Luc 2, il est parlé d'un gars qui s'appelait Siméon. Il n'avait plus grand-chose pour lui. Il était juste. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit était sur lui. Et, je n'ai pas donné les références, s'il y en a qui veulent l'afficher. Luc 2, 25 à 32. Luc 2, 25 à 32. Et là, il est dans la présence de Dieu en permanence. Et pourquoi il est là ? Au verset 26, il est dit, il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il savait, il y avait une promesse qui lui était donnée. Et cette promesse était suffisante pour lui pour venir quotidiennement à cet endroit-là. Combien de temps tu tiens sur une promesse ? Et ça, c'est une question que je... Tout ça, finalement, c'est des questions que je me pose aussi. Quand je reçois une belle prophétie ou une belle promesse, combien de temps je tiens dessus ? Ou c'est juste une semaine. Là, il va rester. Et il va recevoir le prix de sa promesse. C'est comme les vierges qui vont entrer dans ce repas de fête. Je dirais que ce que l'on désire, l'objet de notre désir, c'est de donner de la valeur à cet objet-là. J'ai envie de dire cette phrase, l'attente que tu as va déterminer ton futur. Quelles sont tes attentes aujourd'hui ? Dans le sens que ce que tu attends, tu l'honores. Et on parle de culture de l'honneur. Hein. Si je n'attends rien de quelqu'un, je peux avoir une bonne relation, mais ça va s'arrêter là. Mais s'il y a des attentes plus loin, je vais honorer cela. Je vais lui donner de la valeur et je vais tout faire pour y arriver. Je ne vais pas reprendre cette histoire, mais vous la connaissez aussi bien que moi. C'est l'histoire de la perle de Grand Prix, par exemple. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette perle, cette histoire? Moi, finalement, je suis à la place du gars, je ne saurais pas si j'aurais fait ça. Mais il veut une perle, il vend tout pour ça, pour une belle perle. Concrètement, il fait quoi avec? Il peut manger, il peut boire, il fait quoi avec? Si tout, ça veut dire tout, c'est-à-dire qu'il a vendu sa maison, ses champs, son lieu de travail, il fait quoi? Quelque part, il y a une passion qui fait qu'on devient déraisonnable. Complètement déraisonnable. Et cette personne-là a tout lâché pour un truc qui ne se mange même pas. Très joli. Reconnais ceux qui aiment bien manger. N'est-ce pas, Luc? Je t'entends dire rire. Ouais. Mais moi, je trouve déraisonnable cette histoire. Tout pour ça. Réfléchis un peu. Dans Romains 8, il est parlé d'une autre attente. La création qui attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend, il est dit, avec un ardent désir. Il y a quelque chose qui consume la création entière. Et quand je vois la création entière, c'est la terre, je vois tout ce qui est qu'on appelle nous la nature, mais aussi des anges. Tout cela, on est en train d'attendre une chose incroyable, la révélation des fils de Dieu. Et dans cette attente, il y a des soupirs. Verset 22, il y a une souffrance, un enfantement. Et le verset 26, il y en a l'esprit qui vient soupirer avec nous. La relation, elle est là. Une autre attente qui va définir quelque chose, c'est celle qu'on trouve dans Luc 1. C'est Zacharie qui est appelé à être à servir devant l'autel des parfums. Et là, on en revient à la maison des prières. Et dans ces passages du verset 5 à 80, en gros, hein, il y a plusieurs parties. Et il y a une attente de qui? Quelle est l'attente qu'ils sont en train de soupirer après? Quelle est leur attente, leur vraie attente? Alors je parle de Zacharie, mais quand je dis leur, parce que c'était dit que tout le peuple était dans la prière. C'était l'heure des parfums. Quelle était leur attente? Le Messie. Et quand l'ange vient parler à Zacharie, lui, il a vécu une vie d'attente. Et il y a une forme de stérilité. Et quand l'ange vient lui parler, quelque part, il ne croit plus à pas grand-chose. Et il croit tellement pas ce que l'ange lui dit que même le signe qui lui a été donné, il n'y croit pas. Je rappelle juste que dans ce passage, il est parlé de la venue du Messie. C'est une histoire où deux choses se collent, la stérilité et Jean-Baptiste et la venue du Messie. Si vous relisez le passage, il dit que le fils de Zacharie allait marcher devant le Seigneur avec l'esprit d'Élie. L'annonce était qu'il allait venir marcher devant le Seigneur. Donc le Seigneur allait arriver très vite. Et ça, Zacharie ne pouvait pas le croire. Ils ont attendu pendant tellement d'années. L'attente était devenue vaine. Est-ce que toutes nos attentes sont devenues vaines ou est-ce qu'on y croit encore? Et cette attente nous transforme. Elle nous emmène plus loin. Une autre attente, notre attente, Dieu a une attente de nous. C'est comme s'il nous désirait. Dans Hébreux 12, 1, c'est un texte qu'on a déjà pas mal lu, mais juste les versets 1 et 2. Il dit au verset 2, le chef, le consommateur de la foi, qui a en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Dans cette joie, il y avait la relation avec le Père, mais ça, il l'avait déjà. Qu'est-ce qu'il y avait en plus? Nous tous. Il nous a vus en relation avec lui. Il nous a Parce que finalement, Jésus est venu pour faire quoi? En deux mots. Il est venu restaurer une relation qui était brisée. Et quand il a souffert de la croix, pourquoi? Juste pour avoir plein de gens qui viennent devant son trône et qui sont à distance. Il est venu et il a eu cette joie incroyable de dire « Super, je vais aller jusqu'au bout, mais je vois la relation être restaurée. Je vois ce royaume de relation être restauré. » Alors, ce passage, j'ai dit qu'il y a plusieurs choses à faire aussi, hein, c'est rejeter le fardeau. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que s'il y a le péché, courir. Ah. Courir veut dire souffrir. Je suis désolé, mais on ne court pas tranquillement. Notre désir nous transforme. Tout à l'heure, il y a ce chant qui disait les chars de l'Éternel sont là. Et dans le Cantique des Cantiques, dans le chapitre 6, il dit que mon désir, quelque part, me transporte, fait de moi un char. C'est-à-dire que non seulement le désir m'entraîne plus loin, mais crée une transformation en moi. Et moi-même, je deviens quelqu'un de puissant. Et. Et si jamais je faillis, malgré toute ma bonne volonté, si je m'endors et que malgré tout ce que j'ai pu avoir comme enseignement, je n'y arrive pas. Je rappelle que ce n'est pas une question de performance, mais c'est ce que Dieu attend de nous, c'est simplement cette relation-là. Et j'ai trouvé un passage qui m'a fait beaucoup de bien, parce que finalement, parfois, on peut se dire « Oups, on est un peu mal. » Dans Hébreux 11, versets 39 à 40. C'est ce fameux passage, on parle de la foi, de tous ces grands seigneurs qui ont fait plein de choses incroyables. Et j'aimerais juste les deux derniers versets. Parce que finalement, dans la parabole des dix vierges, c'est comme si il y a une séparation qui est faite en fonction de ta relation. Et ça, c'est vrai. Mais pas en fonction de notre capacité de relation. Et Dieu est en train d'attendre que tout le monde y arrive. Simplement, il dit à ce passage, « Et tous ceux qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Donc, peu importe si notre relation n'est pas magnifique tous les jours, Dieu attend qu'on arrive à quelque chose de bien plus loin. Et il est prêt à attendre et à faire attendre plein de gens pour que nous, on arrive plus loin. Je trouve que c'est un Dieu qui fait drôlement attention, prévenant, bon, qui connaît à quel point on peut faillir. Je crois que, alors que je porte ce message, je ne crois pas que Dieu est en train de nous dire « Vous avez tout faux ». Je crois que Dieu est en train de nous dire, dans le temps qui vient, il faut garder la relation. Il y a quelque chose d'important à préserver. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, gardez vos rêves, gardez votre relation avec Dieu, gardez votre intimité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toute la louange nous a conduit à ça, à cette voix, à ce parfum qui montait, qui descendait, à cette huile qui descendait. Je crois que Dieu nous dit, restez là. Continuez à travailler, mais restez là. Restez dans ce lieu d'intimité. Parce que c'est de là que va couler votre vie et la vie sur la région. Et peu importe si c'est parfois compréhensible ou pas, si c'est extravagant ou pas, mais il faut aller continuer. Et j'aimerais finir par ce passage dans Osée 2. Quand Dieu dit plein de choses, mais juste quelques versets pour finir. Verset 23. En ce jour-là, j'exaucerai oracle de l'Éternel. J'exaucerai les cieux. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile. Et ils exauceront Israël. Et je répandrai pour moi la semence dans le pays et j'aurai compassion de l'Orouama. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple. Je crois que Dieu veut exaucer, que nous soyons remplis d'huile, que nous soyons remplis de cette présence. Et je vais terminer par prier pour ça, si vous êtes d'accord. Simplement dire, Seigneur, moi je vais continuer à m'engager à bâtir cette relation. Et c'est la difficulté, c'est comment faire plein de choses en gardant la relation. Papa, on te remet notre vie, on te remet notre vie personnelle, mais aussi en tant qu'Église. Et on te prie pour que on puisse continuer à avoir cette fiole d'huile avec nous, ce petit vase, juste ce petit vase qui permet d'aller toujours plus loin, plus loin. Et là, on a besoin d'être renouvelé, que ce soit une huile fraîche, pas une huile qui date de l'année dernière, mais que ce soit une huile fraîche, abondante, viens nous remplir, papa. Viens faire couler. Que ce vase de nos vies soit renouvelé. J'appelle un renouvellement dans nos vies, papa. Que ce que tu as dit là, que cette vallée exaucerait, que l'huile se mettrait à couler. Papa, je prie pour que cette huile se mette à couler. Je prie que tu nous donnes la force, la volonté, le désir d'aller dans cette dans ce lieu de rencontre. Réveille en nous ce désir, papa. Qu'on soit affamé de toi, assoiffé de toi. Que notre attente ne soit pas vaine, stérile, mais qu'elle soit active, passionnée. Seigneur, on veut se rejoindre à toute la création et être dans un ardent désir, un feu dévorant. Et papa, je prie déjà pour cette année, tous ces tabernacles, tous ces lieux d'intimité, pour le temps de la rencontre. Seigneur, merci pour ce que tu vas nous emmener encore plus loin. Et que tu vas nous garder toi-même proche de toi. Et quand on n'y arrive pas, papa, viens à notre aide. Viens à notre aide. Alléluia. Amen.